Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire ce samedi le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du samedi, la République au défi du décolonialisme et de la cancel culture. Décolonialisme, comprenez ce mouvement de pensée qui veut combattre ce qui resterait de l'idéologie et des pratiques coloniales dans notre société. Notre invitée aujourd'hui justement, elle est féministe décoloniale. Cela fait des années maintenant qu'elle cherche à dénoncer la convergence de différentes formes de domination, sexisme, racisme, capitalisme, impérialisme. Elle se dit féministe, mais féministe décoloniale, et donc elle s'oppose à un féminisme universel, elle qui a partagé les combats du MLF dans les années 70. Elle a pu récemment faire tribune commune avec des indigènes de la République. Elle nous dira pourquoi elle défend ses idées au risque de la division dans l'espace public. Françoise Vergès nous rejoindra dans une vingtaine de minutes pour un débat sur ces questions de fond et qui divisent profondément notre société et le champ des idées. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Et pour démarrer, il va être question de climat, non pas de météo, mais vraiment de climat.
Dire que cette loi à elle seule est une loi qui doit porter toutes les ambitions de la France sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument absurde. On a un ensemble de mesures qui sont portées depuis le début de ce quinquennat qui poussent vers cette orientation. Que les écologistes, d'une manière générale, disent « mais il faut toujours porter l'ambition et rehausser l'ambition », bien évidemment.
C'était Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Elle était l'invitée du grand entretien de la matinale mercredi. Elle évoquait donc son projet de loi climat et résilience, puisque tel est l'intitulé exact qui était présenté en Conseil des ministres cette semaine. Gilles, que vous inspire d'abord l'intitulé climat et résilience? Pourquoi l'association de ces deux mots?
Climat, on voit bien, la question donc se pose plus sur résilience, parce que c'est un des mots qui est dans le débat public autour des questions environnementales, savoir comment on peut rebondir. Barbara Pompili n'a pas tort en disant qu'il y a l'ensemble des mesures et qu'il y a la loi et qu'il faut penser cela globalement. Une des difficultés pour porter un jugement sur le projet de loi qui vient d'être présenté, au-delà du fait que c'est un projet de loi et qu'il va encore être discuté,
oui,
tient à la question de savoir ce jugement se fait par rapport à quoi. La première tentation qu'on peut avoir, c'est de le juger à l'aune des propositions qui ont été formulées par les Français dans la Convention pour le climat.
Les 150 citoyens,
les 150 citoyens et les 149 propositions. Ce qui est en jeu alors, c'est le respect de la parole présidentielle qui avait dit qu'il reprenait sans filtre 146 de ces 149 propositions. À cette aune-là, le compte évidemment n'y est pas, puisque il y a un peu plus de 10% de ces propositions qui sont reprises intégralement, un peu moins de 30% qui sont reprises partiellement, même si Barbara Pompili a raison de le dire, il y a d'autres mesures qui sont prises ailleurs. Mais le Conseil économique et social, dans son avis, a dit c'est souvent limité, souvent différé, souvent conditionné. Bon, à cette aune-là, le compte n'y est pas. En même temps, je pense qu'on ne peut pas se contenter de juger ce projet à l'aune de ses propositions, parce que moi, je considère qu'il est légitime qu'il y ait des évolutions par rapport à ça. Et donc, l'autre tentation qu'on peut avoir, c'est de juger le projet de loi à l'aune des objectifs que la France elle-même s'est assigné lors de la COP21, réitéré depuis, de réduction des gaz à effet de serre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le projet de loi, il y a une étude d'impact, c'est-à-dire que le projet de loi lui-même essaye d'évaluer ce qui a été fait. Et là aussi, on voit en réalité que le compte n'y est pas, puisque, en gros, dans le projet de loi lui-même, c'est 10% du chemin qui est à parcourir, et si on prend, comme Barbara Pompili nous y invite, et qu'on suit les chiffres du gouvernement qui peuvent être optimistes, c'est les deux tiers du chemin. Ça veut dire que là encore, le compte n'y est pas, et le compte y est d'autant moins que, dans l'intervalle, nous avons rehaussé, au niveau européen, ces objectifs. Bon, donc, de ce point de vue-là, on n'y est pas. Et puis, il y a une dernière manière de regarder, qui est, je le dis d'un mot, qui est de regarder par rapport à la situation existante, et là, il faut reconnaître objectivement que ce projet de loi touche à beaucoup de champs de la vie quotidienne et qu'il y a un certain nombre d'avancées, même si quand on regarde dans le détail, je ne veux pas être plus long, elles sont souvent limitées.
Natacha Polony.
Je rejoins ce que vient de dire Gilles sur la question du rapport entre cette loi et la Convention climat. Donc, je ne vais pas faire plus long là-dessus. Je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut regarder quand on essaye de juger cette loi. C'est la contradiction qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut appeler la politique des petits pas, c'est-à-dire, en effet, ces quelques avancées qui sont indéniables et qui sont mieux que rien, on va dire, et la façon dont on peut penser réellement à échelle globale une façon d'évoluer vers une transition climatique, vers une transition environnementale, sachant que cette question est évacuée et n'était pas complètement traitée même dans les propositions de la Convention citoyenne. Mais il y a un élément qui me semble essentiel, c'est le fait de savoir si nous réussirons à un moment donné à avoir un débat général, un débat démocratique sur la question du nucléaire, par exemple, qui en fait est toujours laissé de côté parce que c'est éminemment problématique. Or, je pense que si nous voulons réfléchir aux enjeux à venir, soit on règle la question en expliquant que nous devons diminuer drastiquement notre consommation d'énergie. Alors, de fait, il faut réfléchir aux moyens de le faire, mais pouvons-nous le faire uniquement avec des énergies renouvelables ? À un moment donné, il faudra se poser la question parce que la France est en train petit à petit d'abandonner sa filière nucléaire d'une façon qui ne me semble pas la bonne. C'est-à-dire l'abandonner à long terme, à un moment où on aura véritablement travaillé sur des alternatives, ce serait sain. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Deuxième point, penser le climat sans penser l'externalisation massive de notre pollution, qui aboutit au fait que nous ne sommes pas trop mal classés dans les mesures de production de gaz à effet de serre, me semble problématique. Et c'est l'autre point qui est, je dirais, un point aveugle systématique de ce genre de loi, c'est-à-dire le fait que on ne peut pas penser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre sans penser la question de la consommation, mais également la question de la production.
Oui.
Ce qu'on appelle la division mondiale du travail est un des facteurs majeurs de production de gaz à effet de serre, sauf que ça ne se voit pas chez nous, et un des éléments majeurs de pollution. Donc je pense que là, en l'occurrence, les petits pas ne suffiront jamais face à un enjeu essentiel qui est la question de savoir comment on relocalise une économie qui tienne compte des modes de consommation, qui reconstruisent une façon de consommer.
Et le 9 mars, les députés examineront le projet controversé du gouvernement d'organiser un référendum pour intégrer la protection ou la garantie de la biodiversité dans le premier article de la Constitution. Gilles, vous vouliez encore ajouter un mot avant de passer au prochain sujet?
Oui, juste un mot. Je crois que Natacha Polony demandait est-ce qu'il y aurait un débat général sur la question du nucléaire et de la place du nucléaire dans le mix énergétique. Je pense que l'élection présidentielle est faite pour ça et qu'il devrait y avoir ce débat-là et qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur la réduction des gaz à effet de serre sans avoir une réflexion sur la place du nucléaire.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
J'aurais pu le signer.
Non,
ce livre,
ça va aller.
Si, j'aurais pu le signer.
C'est étonnant,
je vous dis, ça. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire.
Bon. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve là. Hein. Si je crois à vos distinctions entre ce que dit Monsieur Ravier, ce que dit Madame Le Pen, maréchal, ce que dit Monsieur Collard, il y a vraiment une différence forte. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème.
Vous avez reconnu évidemment les voix de Marine Le Pen et de Gérald Darmanin qui débattaient jeudi soir sur le plateau de France 2 dans l'émission Vous avez la parole. Vous avez la parole, Natacha Polony. Qu'avez-vous pensé de ces échanges et particulièrement de cet échange que nous venons d'entendre?
Écoutez, je pense que je ressens comme à peu près tout le monde une forme de consternation, non?
Enfin, pourquoi de la consternation?
Parce que on a là l'exemple même de la posture politicienne des deux côtés. C'est-à-dire, ce débat n'a servi à chacun des deux intervenants qu'à essayer d'envoyer des messages à leur électorat en se positionnant, quitte à être dans les paradoxes permanents, c'est-à-dire qu'on a une Marine Le Pen qui essaye de se présidentialiser et qui donc surjoue l'aspect extrêmement raisonnable, parfois conciliant, mais qui est dans la contradiction totale, c'est-à-dire un coup elle reproche à Gérald Darmanin d'en vouloir aux religions et d'attaquer les religions en général pour viser l'islamisme, et dans le reste du débat, elle explique qu'il faut carrément interdire les signes religieux dans l'espace public. Si ça, ce n'est pas s'en prendre aux religions en général, je ne vois pas bien ce que c'est. Donc on est dans l'absurdité la plus totale, on n'a toujours pas compris exactement comment elle comptait régler la question notamment de la déscolarisation de certains enfants qui sont mis dans des écoles coraniques clandestines. Donc elle reproche là aussi ce volet de la loi parce que ça fragilise certaines familles, notamment proches de son électorat, quand ce sont des familles plutôt catholiques, même si c'est pas la majorité de ces familles-là. Mais on ne comprend pas bien les propositions. Et de l'autre, on a un Gérald Darmanin qui visiblement était dans la préparation de l'élection présidentielle d'une façon d'ailleurs qui ressortait systématiquement puisqu'il ne cessait de répéter que c'était la préparation du débat de second tour de la présidentielle, ce que je trouve assez absurde, partir du principe que Marine Le Pen sera au second tour me semble un petit peu cavalier, mais on avait là un numéro de claquette assez, assez consternant et qui a laissé totalement de côté toute la réflexion sur la République, sur l'intégration, sur l'ascenseur social, sur le projet républicain dans sa promesse face à des populations fragilisées. Enfin, tout ça a disparu.
Gilles Finkelstein, vous partagez le diagnostic ?
Oui, moi j'ai pas eu un sentiment seulement de consternation, mais j'ai eu un sentiment de malaise. Je l'ai eu au départ sur la configuration même de ce débat qui nous donnait à voir une partie étroite du spectre politique. Et d'ailleurs, l'audience de cette émission est une illustration de ce que beaucoup de Français ne se sentaient pas représentés dans ce débat. Et j'ai eu un sentiment de malaise à l'arrivée en regardant aussi le contenu des échanges. Je voudrais quand même revenir d'abord sur le contenu. Et le contenu de ce que dit Marine Le Pen, parce que Natacha Polony dit elle a surjoué le raisonnable, il y a malgré tout, sur le fond, une profonde continuité. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Quand vous regardez les propositions, quand vous prenez le temps de regarder les propositions, le retour au droit du sang, l'immigration, zéro. La détention sans cause perpétuelle pour les étrangers qui ne peuvent pas être expulsés. Et ce que vient de dire Natacha Polony sur les entraves à la liberté de conscience, tout ça, c'est la même philosophie traditionnelle de l'extrême droite et du mythe de la pureté. Donc ça, ça n'a pas changé. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a eu une erreur de Gérald Darmanin qui, sur beaucoup de sujets, était dans l'accommodement et donnait à penser que ces sujets-là rentrait dans le champ de la discussion républicaine et qu'il y a eu de surcroît une faute, c'est la phrase que vous avez soulignée, de banalisation. Lorsque on dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, et ben on rentre totalement dans son jeu. Donc ça, c'est sur le fond.
Oui.
Un mot quand même aussi sur la forme et sur ce que disait Natacha. Je ne sais pas, la formule serait un peu hardie, dire, je disais Marine Le Pen sur le fond, c'est l'extrême droite. Est-ce que sur le fond, c'était sur la forme, est-ce que c'était l'extrême droite? C'est peut-être un peu excessif, mais
le jeu de mots est joli.
Où elle a fait manifestement un effort sur elle-même pour gommer une part de l'agressivité dont elle avait fait montre dans la campagne présidentielle précédente. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'analyser ce qui est sans doute la stratégie politique qui est derrière. En 2012, sa cible, c'était la jonction des populismes, c'était viser le rassemblement des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, de faire la jonction des colères, avec un discours anti-Europe, anti-élite. Et donc, l'agressivité pouvait être cohérente. Ma conviction a toujours été que c'était une impasse, et d'ailleurs ça a été un échec. Là, derrière ce nouveau ton, il y a aussi une nouvelle stratégie électorale, et c'est ça qui pouvait être intéressant dans ce débat, c'est qu'en réalité, il se dispute le même électorat.
Lequel ?
C'est-à-dire l'électorat des Républicains, du parti des Républicains, l'électorat âgé, qui sur lequel il peut y avoir des convergences sur le fond entre Marine Le Pen et eux, mais qui était freiné notamment par le ton de Marine Le Pen. Et donc, de ce point de vue-là, ce débat pouvait être instructif.
Natacha ?
Oui, Gilles a raison de souligner un point. Marine Le Pen a effacé toutes les dimensions, j'allais dire, c'est pour employer un terme que je déteste, disruptives du discours du Rassemblement National qu'elle mettait en avant jusqu'à présent. Après 2017, elle a effacé la question de l'euro et de la sortie de l'Union européenne, parce que visiblement, de toute façon, ce sont des questions qu'elle ne maîtrise pas, et elle l'avait prouvé dans ce fameux débat. Elle a gommé récemment, même si elle y revient, et là-dessus, il y a quelque chose d'extrêmement flou, la question de Schengen, c'est-à-dire qu'elle a fait une sortie il y a 10 jours pour expliquer que le Rassemblement National abandonnait l'idée d'une sortie de Schengen, mais là c'était moins clair dans le débat avec Gérald Darmanin. Mais tout de même, là où Gilles a raison, c'est qu'en fait ce qu'elle efface, c'est cette dimension de jonction des populismes. Mais du coup, la question que l'on se pose, c'est, parce que l'idée c'était de dire ça c'est subversif, ça fait peur à cet électorat conservateur qui vote tant enfin, à la jonction entre la droite et la droite dure, on va dire. Et la question, c'est de savoir ce qu'il lui reste, du coup, pour se différencier. Or, c'est bien le problème, c'est que ce qui lui reste, et en fait, elle revient au cœur de ce qu'est le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'on est sur la question identitaire, avec oui. L'idée, et Gilles a eu tout à fait raison de souligner la dimension de pureté dans le discours, c'est-à-dire qu'on est sur un discours qui redevient un discours de défense identitaire et qui n'a plus cette dimension sociale qui avait émergé quand elle elle s'était distinguée de son père.
Gilles Finkelstein.
Oui, elle revient sur le discours identitaire. Elle refait de la question de l'immigration, de l'identité, la question centrale. C'est ça tout le cœur de sa stratégie, la conviction que si ça c'est le débat central, eh bien les choses vont naturellement venir à elle. Et donc c'est aussi ça qui va être un des enjeux.
Mais comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase « J'aurais pu le signer, ce livre », s'adressant à Gérald Darmanin qui publie un ouvrage sur le séparatisme ?
Je ne sais pas. Écoutez, non, je ne sais pas. Je suis pas dans la tête de Marine Le Pen. Je pense que c'est un exercice, une tentative de séduction de l'électorat des Républicains, de l'électorat âgé, qui sur les questions d'immigration et d'identité n'est parfois pas très éloigné de Marine Le Pen. Est-ce que ça suffit pour gagner une élection présidentielle? Est-ce que ça garantit même une qualification pour le second tour? Rien n'est moins sûr. Et donc là, je pense que les choses sont beaucoup moins jouées que Gérald Darmanin ne voulait le dire. Ce qui me semble certain, c'est qu'avec une telle stratégie, Marine Le Pen ne recueillera jamais les 15 millions de voix qui, depuis 25 ans, sont nécessaires pour gagner une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner, parce que est-ce que, par le jeu de l'abstention, le seuil de la victoire sera abaissé? Ça, nul ne le sait. C'est la campagne et les décisions des électeurs qui le détermineront. Mais elle a eu 10 millions de voix. Je ne vois pas comment elle fait 15 millions de voix.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
C'est un sondage, Gilles et Natacha, sur lequel vous vouliez revenir. Une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès est publiée par Libération jeudi. C'est un sondage sur un sujet qui vous tient à cœur, Natacha, celui des professeurs, des enseignants. Sondage qui montre que 83% des profs disent exercer leur métier avec plaisir, malgré des difficultés pour maintenir la discipline dans les classes, des difficultés également pour tout simplement résister aux burn-out et à l'épuisement. Comment comprendre cette forme de paradoxe, Natacha ?
Ce n'est pas un paradoxe, j'allais dire. Heureusement que 83% des professeurs exercent avec plaisir. C'est un métier qu'on ne peut pas exercer si on n'a pas chevillé au corps ce qu'on appelait autrefois la vocation, même si, soulignons-le, la vocation, ça ne signifie pas qu'il faille se prendre dans la figure et accepter absolument tout. Donc bien sûr, et 87% se sentent en sécurité dans leur établissement, mais on espère bien. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve quand même que les autres, ceux qui ne sont pas là-dedans, c'est-à-dire 13% qui ne se sentent pas en sécurité, pardon, mais moi je trouve ça beaucoup.
Oui.
Et je trouve que 45% qui ont été visés par des insultes, 28% par des menaces contre eux ou contre leurs biens, c'est énorme. Or, il y a des années qu'il y a un débat sur la question de la sécurité dans les établissements scolaires, et où on nous explique que tout ça est uniquement de l'ordre du ressenti, que aucun chiffre ne montre des problèmes. Or, il me semble que ce que montre ce sondage, et c'est d'ailleurs dit par Yannis Schroeder, qui fait partie des gens qui ont travaillé sur ce sondage à la Fondation Jean Jaurès, c'est le fait que ça montre aussi une forme d'acceptation de la part de certains professeurs, c'est-à-dire qu'à force de vivre des insultes, des menaces, eh bien ils ont intégré cela, et ça ne les empêche pas heureusement d'être heureux et d'aimer leur métier, mais nous, en tant que citoyens, nous devons nous poser la question de savoir si nous acceptons que des professeurs aient finalement intégré les insultes, les menaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans l'interprétation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été frappée dans l'article que Libération a consacré à ce sondage, de voir un commentaire justement sur Yannis Schroeder, donc professeur qui est toujours professeur en Seine-Saint-Denis, qui a été un des auteurs des Territoires perdus de la République. Et Libération écrit: un livre qui avait suscité beaucoup de débats à sa sortie en 2002, dépeignant des établissements où régnerait antisémitisme et racisme. Et dans cette phrase, il y a tout ce qui, justement, fragilise certains professeurs et rend les choses extrêmement difficiles. Parce qu'il y a, en fait, l'idée que tout cela était monté en épingle. 2002, ce livre décrivait une réalité et décrivait des élèves de collège, une génération, qui est celle de Mohamed Merah, des frères Kouachi. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que il n'y a que, j'allais dire, que un certain nombre de professeurs qui sont frappés par des insultes ou par des menaces, que ça n'est pas grave. Ouais. Et je pense que l'idée de réduire cela à une petite minorité, c'est oublier que nous devons tous collectivement nous intéresser à ce qui se passe dans les établissements scolaires.
Gilles Finkelstein, avant le débat.
Oui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et à raison, de la situation de la jeunesse. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'école. C'était intéressant de s'intéresser aux enseignants, et c'était l'objet de cette enquête. De manière vraiment trop schématique, parce que le temps nous presse, si j'essaye de résumer. Moi, j'ai été surpris, agréablement surpris, par ce chiffre de 83% des enseignants qui disent exercer leur métier avec plaisir, parce que par rapport à cette idée de la crise des vocations, de la difficulté du métier, malgré tout, c'est quelque chose de positif. C'est en gros le chiffre moyen des Français qui exercent leur profession avec plaisir. De la même manière, j'ai trouvé plutôt positif le fait qu'il n'y ait malgré tout, 20% d'entre eux qui disent avoir des problèmes de discipline dans leur classe, même s'il y a des disparités, et dire qu'il y avait du respect. Donc ça, je trouve que c'est positif. En revanche, il y a deux signaux d'alerte. Le premier, il est sur notre société elle-même, le fait que plus de la moitié d'entre eux disent que leur enseignement a été contesté à un moment ou à un autre dans toutes les disciplines pour des questions d'ordre religieux, et que le tiers d'entre eux dit qu'ils ont été menacés à un moment ou à un autre physiquement ou moralement. Ça, c'est un signal d'alerte. Et le dernier, et je termine par là, c'est un signal d'alerte sur les enseignants eux-mêmes, parce que en dépit de ça, il y a un chiffre qui est extrêmement alarmant. 46% d'entre eux, c'est plus que la moyenne des Français, ont eu à un moment ou à un autre, ont été en situation de burn-out. Et donc, on voit malgré tout toute la difficulté, y compris par rapport à ces nouveaux standards qu'évoquait Yannis Schroeder.